France Inter, franceinter.com.
Dans l'atmosphère en puanti par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas, ils ratissent vraiment à coup de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Mille ans d'histoire. Lorsque le 3 mai 1968, le recteur Roche décidait de fermer la Sorbonne, il déclenchait sans le savoir une révolte dont personne n'imaginait ni l'ampleur, ni la durée, ni la violence. Pendant un mois, les manifestations d'étudiants et une grève générale comme la France n'en avait jamais vu depuis 1936 allait faire vaciller la Ve République et un gouvernement désemparé pendant plusieurs jours par l'absence de son Premier ministre. Georges Pompidou était parti la veille en voyage officiel en Iran et en Afghanistan, tandis qu'à Paris, pendant 9 jours, la répression policière ne faisait qu'aggraver la révolte étudiante. C'est pourquoi, dans l'avion qui le ramenait de Kaboul en France, Georges Pompidou avait décidé, au contraire, d'apaiser la tension en rédigeant la déclaration qu'il allait faire à la radio et à la télévision le soir même de son retour, le samedi 11 mai 1968.
Tout au long de ce voyage officiel organisé par les gouvernements d'Iran et d'Afghanistan, je n'ai cessé de suivre avec tristesse le développement du malaise universitaire, les manifestations auxquelles il a donné lieu et qui ont trop souvent dégénéré, contraignant le gouvernement, comme c'est son devoir, à rétablir l'ordre. Aussi, j'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi. En rendant la Sorbonne à sa destination, nous la rendons aussi à sa vocation, qui est l'étude. Cet apaisement, j'y suis, pour ma part, prêt. Puisse chacun entendre mon appel.
Alain Frère Jean, bonjour.
Bonjour Patrick Gélinet.
C'était Georges Pompidou à son retour d'Afghanistan le 11 mai 1968. Il n'était donc pas là au début de ces événements de mai 68, pendant lesquels, à la tête du gouvernement, il a dû faire face à une crise la plus grave sans doute que la France ait connue depuis la guerre d'Algérie. Une épreuve dont vous parlez longuement dans votre biographie de Georges Pompidou qui vient de sortir chez Fayard et pendant laquelle, dites-vous, Pompidou a pris une autre dimension. Hein, Premier ministre du général de Gaulle depuis 1962, c'est-à-dire depuis 6 ans, là, il prenait une carrure d'homme d'État.
Oui, c'est une dimension qu'il prend à la fois pour lui-même. Il comprend sa capacité à succéder le moment venu au général, alors que jusque-là, il n'était au fond que le premier des ministres. Et puis, il va également prendre une dimension d'homme d'État vis-à-vis de toute l'opinion publique française.
Alors, il revient donc de Kaboul. Il a suivi les événements, le début des événements, entre le 3 et le 10 mai 1968. Et quand il revient d'Afghanistan, c'est avec une autre politique que celle que pratiquent, au fond, ses ministres. Le général de Gaulle est un peu en retrait à ce moment-là. Il ne veut pas donner le sentiment d'être pris ou de prendre les événements au sérieux. Mais lui, il vient avec une politique déjà déterminée, surtout éviter l'effusion de sang.
Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est ancien professeur et l'idée d'être amené à faire tirer sur des jeunes qui auraient pu être ses élèves, c'est une chose qui est inimaginable. La deuxième, c'est qu'un mois avant de devenir Premier ministre, en mars 1962, il a pu, comme beaucoup de Français, suivre les horreurs de la fusillade de la rue d'Isly à Alger, où les gendarmes ont tiré sur des Français, sur des pieds noirs, et ont fait une cinquantaine de morts. Ça, c'est un spectacle qu'il ne veut plus jamais revoir.
Il a été aidé de ce point de vue-là, d'ailleurs, par un préfet de police assez remarquable, qui a vraiment fait lui aussi en sorte que jamais la situation ne dégénère, qui était Maurice Grimaud.
Le seul qui l'ait aidé, c'est le préfet de police, Maurice Grimaud. Au contraire, le ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, était d'accord pour faire expulser tout de suite les étudiants par la police.
Alors, dans un premier temps, donc, Georges Pompidou tend la main aux étudiants. C'est ce qu'il dit à l'Assemblée nationale le 14 mai 68, au lendemain d'une grande manifestation des syndicats et des étudiants à Paris.
Rien ne serait plus illusoire que de croire que les événements que nous venons de vivre constituent une flambée sans lendemain. À travers les étudiants, c'est le problème même de la jeunesse qui est posé, de sa place dans la société, de ses obligations et de ses droits. La famille est souvent dissoute, en tout cas relâchée. La patrie, discutée, souvent niée. Dieu est mort pour beaucoup. Dans ces conditions, la jeunesse universitaire, en tout cas, se trouve désemparée. À ce stade, ce n'est plus, croyez-moi, le gouvernement qui est en cause, ni les institutions, ni même la France. C'est notre civilisation elle-même. Aujourd'hui, je fais appel à la coopération de tous et d'abord des étudiants, et je ferai les gestes nécessaires. Puisse, cette fois aussi, cet appel être entendu.
Étonnant ce discours, Alain Frère Jean, de Georges Pompidou, parlant en ces termes plutôt compréhensifs des étudiants qui, au même moment, sont en train de le chahuter dans la rue.
Oui, mais c'est un homme chez qui qui s'est allié la modération et la fermeté, et qui garde toujours son sang-froid.
Vous citez Georges Pompidou, quelques mois plus tôt, en mars 1968, il est devant les jeunes gaullistes de l'UJP et il leur dit, c'est assez extraordinaire, on est en mars, c'est-à-dire qu'on est à quelques semaines du déclenchement des événements du mois de mai. Aujourd'hui, dit-il, il est plus difficile de se révolter. Si j'avais 25 ans, je ne sais où je m'inscrirais, sûrement pas aux jeunesses radicales. Il faut que les jeunes apportent la remise en cause de tout et les hommes mûrs la remise en ordre.
Oui, ce qui est étonnant, c'est que les événements de mai 68 ne sont pas du tout déclenchés par un événement brutal. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas eu de fusillade, il n'y a aucune cause violente. C'est simplement une absence latente de dialogue. De dialogue entre les maîtres et les élèves, entre les parents et les enfants, entre les patrons et les salariés. L'économie se porte bien, mais on ne communique pas. On reste au fond dans une mentalité d'autorité alors que les esprits ont changé.
Alors cette politique d'apaisement que Pompidou préconise, qu'il va même s'efforcer d'appliquer. Alors on pourrait dire que c'est un échec. Il réouvre la Sorbonne, certes, Alain Frère Jean, mais cela dit, ça n'arrête pas du tout le mouvement étudiant.
On a critiqué la décision de rouvrir la Sorbonne. En particulier, Raymond Aron a fait un article incendiaire dans le Figaro en disant que c'était une erreur. Mais ce qui est important, c'est que cette décision de rouvrir la Sorbonne a été prise par Pompidou le 11 mai, alors que les syndicats étudiants et ouvriers avaient annoncé une vaste manifestation unitaire pour le 13 mai de la République jusqu'à Denfert et qui va effectivement réunir 600 000 manifestants. Si ces 600 000 manifestants étaient venus libérer la Sorbonne, ce qui était tout à fait imaginable, on ne voit absolument pas comment on aurait pu les empêcher.
Ouais.
Il y aurait donc eu le sang qui aurait été versé. Enfin, ça aurait été une erreur manifeste, puisque de toute façon, on ne pouvait pas les empêcher de libérer la Sorbonne. Il valait beaucoup mieux la libérer, les prendre de court et leur retirer tout prétexte.
Alors, la Sorbonne sera pendant toute la durée du mois de mai un happening permanent. On peut se dire aussi, peut-être y avait-il ça dans la tête de Georges Pompidou, pendant qu'ils sont en train de refaire le monde à la Sorbonne, ils n'auront pas l'idée d'aller s'emparer de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale.
Mais c'est tout à fait exact. D'ailleurs, la première erreur a été commise en l'absence de Pompidou lorsque on a fermé Nanterre. Comme on a fermé Nanterre, les étudiants ont été ravis de se chercher une autre tribune à la Sorbonne. Et quand on ferme la Sorbonne, il se trouve une autre tribune dans la rue. Et ils font le désordre et les barricades dans la rue.
Alors, vous l'avez dit, vous venez de le dire, il y avait donc le 13 mai une grande manifestation organisée par les syndicats auxquels se joignent les étudiants, les syndicats qui ont décrété une grève nationale pour le 13 mai, mais qui va se prolonger. Alors, le mouvement étudiant, au début, devient un mouvement social, avec, à un moment donné, 10 millions de grévistes en France. C'est assez important, et c'est là, ça prend encore plus d'ampleur, le mouvement.
Mais oui, la raison profonde, c'est que les syndicats se disent, puisque le gouvernement baisse les bras devant les étudiants, c'est le moment de faire passer des revendications. Et deuxièmement, les syndicats et la CGT en particulier ont extrêmement peur de se trouver débordés sur leur gauche par des éléments gauchistes non syndiqués qui vont détrôner la CGT. Donc la CGT veut absolument reprendre le contrôle du mouvement.
Alors, crise étudiante devenue dès lors une crise sociale, devant laquelle d'ailleurs Pompidou se trouve à ce moment-là, le 14 mai, absolument seul à la barre. Le général de Gaulle avait prévu depuis longtemps un voyage en Roumanie, il le maintient et pendant 4 jours, eh bien Pompidou se retrouve seul.
Oui, mais il faut dire que lorsque le général est parti le 14 mai, il y avait encore... C'était peut-être le moment le moins violent, parce que déjà, il y avait moins de barricades étudiantes et que les grèves commençaient tout juste. Donc on peut dire que le général est parti à un moment où il pouvait encore imaginer que la situation serait reprise en main.
Alors, puis faisant confiance à Pompidou pour tenir là-bas, ce qui ne sera plus le cas, lorsque de Gaulle va revenir de Roumanie, il retrouve une situation bloquée, des millions de grévistes, des étudiants qui s'agitent encore. Lorsqu'il revient donc de Roumanie, France Inter, Pierre Charpentier, le 19 mai 1968.
Cette nuit, le chef de l'État est rentré. Il a regagné l'Élysée plus tôt que prévu, 14 heures d'avance sur le calendrier officiel. Et ce matin, ce n'est pas, à proprement parler, un conseil. Plusieurs ministres se sont réunis à l'Élysée. Ils sont en train de quitter le palais présidentiel. La réunion est terminée. Alain Barrault, est-ce que vous m'entendez?
Oui, Pierre Charpentier. Tous les ministres qui étaient réunis ce matin à l'Élysée viennent de partir. Et à l'instant, M. Pompidou vient de sortir à son tour. Il était souriant et détendu. Je lui ai demandé s'il pensait que le général de Gaulle s'adresserait à la nation avant le 24 mai.
Je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non.
Voilà, un mot historique du chef de l'État. C'est tout ce que nous savons pour le moment de cette réunion de ce matin.
La réforme, oui, la Chianlino. Alors, c'est ces mots du général de Gaulle rapportés par Georges Pompidou le 19 mai à la sortie de l'Élysée montrent que le président de la République, et puisque Pompidou n'aurait pas tenu ses propos, révèle en fait qu'il y a un désaccord désormais entre les deux hommes. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que en revenant en France, venu de Roumanie, de Gaulle dit à Pompidou: c'est le bordel partout, vous êtes responsable de l'abandon de la Sorbonne et de l'occupation de l'Odéon, qui entre-temps effectivement a été occupé, de toutes les grèves qui paralysent le pays, ce qui se passe a assez duré, cette fois c'est la chienlit, c'est l'anarchie, ce n'est pas tolérable, il faut que ça cesse. Et de Gaulle, dites-vous, est prêt à employer la force pour faire évacuer et la Sorbonne et l'Odéon.
Oui, il semble que de Gaulle n'ait pas compris ce qui se passait. Pour lui, les gens comme Cohn-Bendit, ce sont des martiens. Ils n'arrivent pas du tout à se mettre dans leur peau. Et la grande force de Georges Pompidou va être de séparer les deux adversaires, de séparer ce mouvement étudiant qui est un mouvement de rêveur, hein, de révolte, mais qui ne poursuit pas de but précis. Et puis, d'autre part, le mouvement ouvrier qui est organisé par les syndicats et qui, eux, tendent à obtenir ils présentent des revendications concrètes, des augmentations de salaire, une meilleure représentation des comités d'entreprise au sein de l'entreprise. Donc, Pompidou va parfaitement comprendre les deux adversaires qu'il a en face et il va les séparer et il va jouer l'un contre l'autre.
Alors ça, c'est le sens de contacts très discrets qui sont pris d'ailleurs entre Georges Pompidou, ou plutôt les membres de son cabinet ou même son secrétaire d'État aux affaires économiques et aux finances, qui s'appelle tout simplement Jacques Chirac, que personne ne connaît à l'époque. Il y a aussi le rôle actif d'Edouard Balladur qui est à son cabinet et qui prennent contact avec les syndicats et avec le plus dur d'entre eux, du moins en théorie, c'est la CGT de Georges Ségui. Comment expliquer d'ailleurs l'attitude de ces syndicats qui vont mettre, en tout cas de la CGT, qui va vraiment mettre un grand coup de frein au mouvement ?
Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que la CGT veut être le représentant de la classe ouvrière et n'admet pas que des nouveaux venus, des intrus, viennent lui prendre la place. Lorsque Mitterrand et Mendès France envisageront de former un gouvernement uni de la gauche dans les tout derniers jours de mai, le point dur, c'est la volonté absolue des communistes d'exclure la participation de gauchistes. Les communistes ne veulent pas être débordés sur leur gauche. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que le général de Gaulle a une certaine confiance de Moscou, des dirigeants de Moscou. Et à cette époque-là, le Parti communiste français est encore très inféodé à Moscou. Et on préfère encore avoir le général de Gaulle, un gouvernement choisi par le général de Gaulle, plutôt qu'un gouvernement genre 4e République atlantiste.
Alors justement, il y a ces négociations, elles débouchent sur de très longues négociations, justement, rue de Grenelle, à l'hôtel de Matignon, qui durent plusieurs jours, et d'ailleurs pendant lesquelles il y a d'une part les syndicats, dont la CGT, mais aussi la CFDT, FO, etc., le patronat, qui est représenté, je crois, par M. Uvelin, et puis Georges Pompidou, qui est au milieu de tout ça, avec, on le voit en photo, hein, à sa droite ou à sa gauche, enfin, il y a Jacques Chirac, il y a Édouard Balladur, il y a Jean-Marcel Jeanneney, et là les négociations vont durer un certain temps, mais ce que cède le patronat est assez, et d'ailleurs le gouvernement est assez important, il faut le rappeler à la frère Jean.
Oui, le patronat a cédé, pour des raisons qui paraissent peu compréhensibles, une augmentation de 35% du salaire minimum interprofessionnel garanti, du SMIG. Ouais.
Qui va, il y a quand même 10 millions de chômeurs, de grévistes dans les rues.
Il y a 10 millions, oui, mais là, on a l'impression qu'il y a eu une bavure de la part du patronat, à tel point que Georges Ségui et Henri Krasucki, qui s'étaient entendus secrètement avec Jacques Chirac pour une revalorisation des deux tiers, sont un petit peu presque choqués du laxisme du baron Petier qui représente le patronat. Alors, autre concession importante, il y a une revalorisation générale des salaires de 7% plus 3%, puisque le SMIC, lui, ne concerne en fait que 15% des travailleurs. Et une troisième concession importante sur la demande de la CFDT, qui est une meilleure représentation des syndicats à l'intérieur de l'entreprise, avec des locaux qui leur appartiennent.
Alors, ces négociations, leur aboutissement le 27 mai 1968, est annoncé par Georges Pompidou, qui espère bien entendu que tout ça va ramener les ouvriers dans leurs usines. Donc par Georges Pompidou, le 27 mai 68, à 7h du matin, donc il annonce ces mesures.
Toutes ces revendications ont fait l'objet d'un examen détaillé et minutieux. Examen détaillé et minutieux qui se termine aujourd'hui, lundi, à plus de 7h30 du matin. Nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elle constitue un accord. Le gouvernement, de son côté, ne peut manquer de souligner les exceptionnels sacrifices financiers et budgétaires que ces décisions entraînent, et les avantages sociaux exceptionnels aussi, qui sont accordés en une seule fois à tous les travailleurs en lutte.
Ce sont les accords de Grenelle. Mais lorsque le secrétaire général de la CGT en précise les modalités aux ouvriers de Renault, c'est le refus pur et simple.
Alain Frère-Jean, pas plus que l'ouverture de la Sorbonne n'a ramené le calme dans les facultés, eh bien, les accords de Grenelle n'ont fait rentrer des ouvriers dans les usines. La grève continue, la base, en fait, refuse ce que se consignaient les dirigeants syndicaux.
C'est dû à un incident qu'on pourrait appeler trivial. Georges Séguy était certainement de parfaite bonne foi lorsqu'il s'est rendu à Billancourt pour proposer à la base
de
co-signer les accords de Grenelle, qui selon lui n'étaient pas encore des accords, c'était un échange de points de vue. Et là, il a commis une erreur, c'est qu'il s'est précipité à Billancourt une demi-heure trop tôt. Et au lieu d'avoir affaire à l'équipe de jour des ouvriers de Billancourt, il a eu affaire à l'équipe de nuit qui achevait sa faction, ayant très mal dormi entre les machines et qui était d'ailleurs furieuse parce qu'on ne lui avait pas servi le café. Ils étaient de mauvaise humeur et ils n'ont rien compris de ce que Séguy leur a raconté.
La grève ne concerne pas que Billancourt, hein, c'est toute la France qui était
en grève. Oui, mais ça fait tache d'huile. C'est le grand bastion, le plus grand bastion ouvrier en région parisienne,
symbole.
C'est Renaud Billancourt. Et là, Séguy et Grassucci se sont fait siffler par la base et du coup, le refus a fait tache d'huile.
Alors la situation reste bloquée, elle s'aggrave même, puisque le lendemain 28 mai, voilà que la crise devient politique, étudiante puis sociale, elle devient désormais politique. Voilà que François Mitterrand demande le départ du général de Gaulle, annonce qu'il est prêt, qu'il est disposé à le remplacer. Il y a la grande manifestation du stade Charletti. Et dans ce contexte, quelque chose d'encore plus grave, voilà que le 29 mai, le général de Gaulle disparaît purement et simplement. On ne saura que plus tard qu'il est parti en Allemagne, à Baden, mais alors sans avoir même prévenu son Premier ministre. Georges Pompidou ne savait pas pendant 6 heures où il se trouvait.
Alors pour Georges Pompidou, c'est tout à fait dramatique. Il a le sentiment d'un seul coup que le parapluie disparaît. Il est responsable de tout. Il pense que le général lui a même dit au téléphone une chose étonnante. « Je vous embrasse ». Alors que le général de Gaulle embrasse Pompidou, ça lui paraissait inimaginable. Il n'a jamais embrassé personne. Donc Pompidou a le sentiment que le général a disparu et ne reviendra pas. Et il est dans une situation très difficile parce que l'intérim du président de la République ne peut être assuré que par le président du Sénat, qui est Gaston Monnerville, et qui est un adversaire déclaré du gaullisme. Donc c'est une situation épouvantable pour Georges Pompidou, qui ne le pardonnera jamais au général de Gaulle. C'est ça qui est la principale fracture entre les deux hommes, c'est le fait de s'être senti abandonné.
On n'a jamais très bien su pour quelle raison de Gaulle était parti. Certains disent, c'est le cas du général Massu auprès duquel il s'est rendu à Baden, eh bien il était démoralisé, c'est moi qui lui ai regonflé le moral pour qu'il rentre à Paris. D'autres disent qu'il a volontairement fait un coup de théâtre pour retourner l'opinion en sa faveur. On n'a jamais très bien su ce qui s'est passé.
Alors les opinions sont très partagées, même au sein de la famille du général, où son fils, l'amiral de Gaulle, assure que le général a toujours gardé son sang-froid et que donc il a organisé ce coup pour surprendre les Français. Et l'avis n'est pas du tout partagé par le général de Boissieu, qui est son gendre, qui pense qu'effectivement, il a envisagé de quitter le pouvoir. Mais il y a quand même une raison qui plaide, je dirais, en faveur de la volonté ferme du général, c'est que le 29 mai, il y avait une manifestation de 500 000 personnes qui était annoncée depuis la Bastille jusqu'à Saint-Lazare.
Ah, pardon,
et Saint-Lazare,
oui.
C'est pas loin de l'Élysée.
Oui.
Donc, il n'a pas envie d'être fait aux pattes.
Alors, en tout cas, le général de Gaulle réapparaît soudain. Il passe à Colombey, il annonce à Pompidou qu'il sera à Paris le 30, le lendemain. Il retrouve Pompidou le 30 au matin. Il est prévu qu'il fasse une allocution à la radio au moment où est prévue aussi une grande manifestation de gaullistes, cette fois-ci, hein, qui doivent défiler sur les Champs-Élysées. Il arrive et puis il dit à Georges Pompidou, ben voilà ce que je vais leur dire, que je vous garde, il lui fait confiance, et puis je vais leur dire que je vais leur annoncer un référendum. Il avait déjà fait le 24 mai, ça n'a pas marché. Et là, Pompidou vraiment a joué un rôle essentiel dans ce qu'allait dire le général de Gaulle.
Oui, Pompidou a tout de suite pensé que d'abord le référendum pouvait ne pas, d'abord que ce référendum serait sur la participation des ouvriers aux réserves de l'entreprise et sur la participation des étudiants à l'université. Et le général de Gaulle a pensé que beaucoup de gens ne comprendraient pas de quoi il s'agissait et qu'ils verraient dans ce référendum un plébiscite de type bonapartiste. Donc il a pensé que ça, deuxièmement, il a pensé que toutes les imprimeries étant sous le contrôle des syndicats, syndicats, on n'arriverait même pas à faire mettre les bulletins de vote. Alors, il a proposé au général, il a dit au général, ce n'est pas le référendum qu'il faut faire, c'est la dissolution des chambres, la dissolution de l'Assemblée nationale, et les députés de l'opposition repartiront dans leurs 500 circonscriptions dans toute la France, et ça sera beaucoup mieux.
Alors justement, c'est ce que va dire le général de Gaulle à 16h, le 30 mai 1968, 2 heures avant une grande manifestation prévue par les gaullistes sur les Champs-Élysées, un discours qui allait mettre un terme à mai 68.
Françaises, Français, j'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Vive la République, vive la France.
En tête du cortège, donc, un immense drapeau tricolore frappé d'une croix de Lorraine. On peut d'ores et déjà avancer un chiffre, je crois qu'on peut avancer le chiffre de 700 000. Plusieurs slogans, unité de la France, arrêtez la violence, Mitterrand à la santé, Mendès au rancard, et puis des banderoles où l'on peut lire vive la France, vive de Gaulle, et beaucoup de gens parmi les badauds, des gens qui se trouvent sur le trottoir et qui font avec les deux doigts le signe du V, le signe de la victoire.
Et c'était les gaullistes sur les Champs-Élysées le 30 mai 68. Les étudiants n'étaient plus les seuls à occuper la rue. Et là, cette immense manifestation a mis un terme. Surtout les mots qu'on a entendus du général de Gaulle, puisqu'il dissout l'Assemblée, les partis politiques ne peuvent plus encourager les étudiants à continuer de manifester. Les syndicats font autant. Les Français vont dans les urnes. Ils vont apporter un triomphe d'ailleurs au parti gaulliste parce que l'opinion a basculé. Entre temps, elle a eu peur du départ de Gaulle. Elle a eu peur d'un mouvement dont on ne sait plus très bien où elle conduisait. Elle s'est complètement basculée en un mois. À quoi attribuer ce succès de la majorité de l'époque, des gaullistes? Est-ce que c'est De Gaulle qui, au fond, a mis un terme au mouvement ou est-ce que c'est Georges Pompidou, Alain Frère Jean?
Je crois qu'il y a les deux. Mais je voudrais revenir sur le dernier mot du discours du général de Gaulle, qui est terrible. Il lance un appel à l'action civique. Imaginez un instant qu'en même temps qu'il lançait un appel à l'action civique, il ait lancé un appel à un référendum, pris, dénoncé par Mitterrand comme un plébiscite. Alors que la veille, il y avait eu 500 000 manifestants de l'opposition qui défilaient dans Paris. Eh bien, nous étions au bord de la guerre civile. Donc je crois que la grande sagesse de Georges Pompidou a justement été d'empêcher qu'il y ait le référendum et qu'il y ait au contraire la dissolution et les élections.
Alors malgré l'hommage appuyé que lui rendait De Gaulle le 30 mai, De Gaulle va le remplacer, va remplacer Pompidou par Couve de Murville. Et là, c'est le début d'une brouille entre les deux hommes, avec un Pompidou qui devient un rival du général De Gaulle. Il ne va pas le soutenir ardemment dans le référendum organisé par De Gaulle en 69. Il va même se poser en successeur et même devenir son successeur à peine un an plus tard, en juin 1969. C'est vraiment terrible, après 6 ans, Premier ministre du général De Gaulle, voilà Pompidou qui devient un rival. Mai 68, évidemment, a joué un rôle énorme là-dedans.
Oui, mais ce n'est pas... Il faut dire que certains se sont employés à les brouiller. Tout d'abord, des journalistes, et en particulier un journaliste anti-gaulliste à Rome qui a tronqué une conversation avec une reporter de combat, et ensuite Maurice Couve de Murville.
Mais enfin, il devenait un homme d'État susceptible de succéder à De Gaulle. L'opinion lui était très favorable. Merci en tout cas à Alain Frère Jean de nous avoir rappelé donc le rôle de Georges Pompidou en mai 68, un moment auquel vous avez consacré plusieurs pages de la biographie importante que vous lui avez consacrée. C'était Georges Pompidou, un livre publié récemment chez Fayard. À lire également le dernier numéro de la revue Historia Thématique, daté de janvier 2008 et qui consacre un article à la présidence de Georges Pompidou. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benjamin de la Gâtinais et Loïc Frapsos, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gilry, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on va trembler avec une histoire des monstres.